Radio Okapi. Le journal Lievin Mwinga à la présentation.
Bonsoir et merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. Au sommaire de cette édition, d'abord ce drame, au moins 20 personnes tuées, plusieurs biens pillés et des habitations incendiées à Fataki et Jina, œuvre des miliciens Codeco lors d'une double attaque menée dans ces contrées de l'Ituri. Ambiance particulière cet avant-midi à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, inaugurait une peinture murale symbolisant la lutte contre la désinformation devant la chef de la MONUSCO. Notre invité est le procureur chef de parquet près le tribunal de paix de Kalemi, Alain Galamouloumé Bakajika, va nous expliquer l'importance de l'installation d'une itinérance du parquet près le tribunal de paix de Kalemi à Kabinda. Voilà tout pour les titres. Nous commençons ce journal par cette tragédie qui endeuille la population de l'Ituri. Au moins 20 personnes ont été tuées, plusieurs biens pillés et des habitations incendiées lors d'une double attaque menée par des miliciens de la Codeco à Fataki et Jina dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, les habitants sous le choc tentent de se remettre de ce drame survenu la nuit dernière. Entre-temps, le trafic sur la route nationale numéro 4 reste toujours perturbé. Jean-Claude Loki Dile nous fait le point.
C'est aux environs de minuit qu'un groupe d'hommes armés de machettes et d'armes à feu a fait irruption dans deux parcelles à Fataki. Dans la première habitation, 9 personnes ont été brutalement abattues à la machette, selon une source locale, avant que 2 autres ne soient tuées dans la parcelle voisine. Une personne qui tentait de fuir a été rattrapée et décapitée par les assaillants. Les autorités sécuritaires avancent un bilan légèrement différent, faisant état de 10 morts, dont 9 femmes et un enfant de 7 ans. À Jina, une localité située à plus de 40 km de Fataki, 10 autres personnes auraient également été tuées. Parmi elles, 7 miliciens de la Codeco abattus lors d'un affrontement avec des membres du groupe armé Zaïre. Un militaire des FARDC a également été blessé par balle, d'après des sources concordantes. Au moins 3 civils ont aussi trouvé la mort, selon des sources de sécurité. Plusieurs biens, notamment des médicaments, des matelas, d'une structure médicale locale ainsi que de chèvres, ont été emportés par des miliciens de la Codeco. Ce matin, la situation est restée encore tendue, bien qu'un calme relatif régnait dans la zone. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Sachez aussi que cette même milice Codeco a mené une nouvelle attaque ce lundi après-midi contre le camp des déplacés de Jina à environ 30 km de Bounia. La riposte des casques bleus de la MONUSCO a permis de neutraliser un assaillant et sécuriser des milliers de déplacés qui s'étaient mis sous la protection des soldats de la paix à leur base de Jina. Des précisions avec Martial Papimukeba.
CP, après 16 heures locales, c'est lundi que des miliciens de la Codeco ont attaqué les camps des déplacés des Jina. Les soldats de la paix effectuaient leur patrouille de sécurisation quotidienne autour du camp lorsque les assaillants ont ouvert les feux sur eux, endommageant les pare-brises de leurs véhicules. Face à cette menace, les casques bleus de la MONUSCO ont riposté, tuant un assaillant. Malgré leur intervention, des civils, dont un garçon de 14 ans, ont perdu la vie dans l'attaque. L'attaque a également causé d'importants dégâts matériels. Des boutiques ont été pillées, des maisons saccagées et les rares biens des déplacés ont été emportés par les miliciens qui se sont ensuite repliés vers ces scellés, emportant tout ce qu'ils pouvaient. Par la suite, les casques bleus de la MONUSCO ont regroupé et sécurisé des milliers de déplacés en les mettant à l'abri dans l'école primaire et l'église locale. Toute la nuit de lundi à mardi, les soldats de la paix ont patrouillé dans et autour des Jina en fait de garantir la sécurité de la population. Bounia, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. C'était cet avant-midi, au menu des échanges, les efforts de paix en RDC, le soutien dont la RDC a besoin pour pacifier l'Est du pays, mais aussi sur l'importance de la diplomatie parlementaire dans les efforts communs de recherche de la paix. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a rassuré l'accompagnement de la MONUSCO au gouvernement pour instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la RDC. Jean-Pierre Lacroix est au micro de Michel Kifinda.
C'était une conversation très importante où nous avons passé en revue la situation des efforts de paix, le soutien que nous pouvons apporter pour que ces efforts de paix prospèrent. Et nous avons aussi parlé du rôle très important dans ce contexte du Parlement, à la fois par les décisions qui pourront être prises, notamment dans le sens du renforcement de la capacité de la présence de l'État à l'Est, mais aussi du rôle important de la diplomatie parlementaire pour soutenir les efforts de paix, pour les propager, les faire connaître aux populations. La réalité du soutien que nous apportons à la fois aux efforts de paix sur le plan politique, sur le plan opérationnel et aussi à la protection des civils. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont protégées par les Nations Unies, la MONUSCO. Nous sommes très engagés dans ce domaine, les soutiens politiques aux efforts, notamment le processus de Luanda. Pour établir une paix durable, il faut s'attaquer également aux questions socio-économiques et de développement.
Je vous signale que dans la soirée d'hier, le chef des opérations de maintien de la paix a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État. D'après un tweet de la présidence, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC était le principal sujet de cette audience. Il y a un processus diplomatique qui est le dialogue en cours à Luanda que nous soutenons à la fois politiquement mais aussi de manière opérationnelle avec les moyens de la MONUSCO, a déclaré Jean-Pierre Lacroix. Au cours de cette rencontre, Jean-Pierre Lacroix était accompagné de Yuang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs et de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Ambiance particulière cet avant-midi à l'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa. Je le disais en ouverture de ce journal, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, a inauguré une peinture murale symbolisant la lutte contre la désinformation qui est le sous-thème de la Journée internationale de la paix. Elle sera célébrée comme chaque année le 21 septembre prochain. Cette cérémonie s'est déroulée ce mardi à l'Académie des Beaux-Arts en présence de la chef de la MONUSCO et de plusieurs autres personnalités tant onusiennes que congolaises. Suivez ce reportage réalisé par Miradim Fouengi, Biliv Fataki et Baleka Emanuela.
Prenant la parole à cette occasion, Jean-Pierre Lacroix a expliqué l'importance de l'œuvre d'art dans la communication. Pour lui, les artistes ont toujours su passer leur message à travers leurs œuvres.
La meilleure réponse à apporter à ce fléau, c'est de promouvoir de manière proactive, avec le concours de tous ceux qui peuvent le faire, à la fois un message de paix, le rôle des acteurs de paix et un message d'engagement de tous. Et dans ce contexte, le rôle des artistes est fondamental, il a toujours été. Il y a une longue tradition d'engagement des artistes pour promouvoir la culture de paix. C'est plus que jamais nécessaire en République démocratique du Congo.
Prisca Tonkwei, la conceptrice de cette œuvre, a remercié la MONUSCO pour cette initiative de communiquer à travers une œuvre.
Je voudrais tout d'abord saluer cette initiative qui permet pour la première fois, on s'intéresse à l'art et on communique, on prend cet art comme étant moyen de passer l'information, communiquer, parce que je pense que dans ce pays, il faut ce genre d'activité qui permet en sorte que l'on comprenne l'art d'une autre manière.
Notez que l'année 2024 marque le 25e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la déclaration et du programme d'action sur une culture de paix dans le monde.
Encore un drame sur les rivières de l'ex-Bandundu. 4 morts et une quarantaine de disparus. Bilan provisoire du naufrage d'une baleinière. Et cette fois, c'est sur la rivière Kwango, dans la province du Kwango. Information livrée par le vice-gouverneur de cette province qui s'est rendu sur les lieux de cette tragédie. Rémi Sake indique que la baleinière est totalement noyée et les recherches se poursuivent pour repêcher d'autres corps. Irène Mbomaluzolo pour plus d'explications.
D'après les témoignages des rescapés, plus de 150 passagers avaient pris place à bord de cette baleinière qui est partie de Tembo dans les territoires de Kasongolunda pour Kinshasa en passant par le village Pankwango. C'est dans l'avant-midi de lundi que la dite embarcation a heurté les ponts jetés sur la rivière Kwango, occasionnant ainsi ce naufrage mortel à quelques mètres de cette commune rurale. Le bilan revu à la hausse fait état d'au moins 4 corps sans vie repêchés, d'une quarantaine de disparus et de plusieurs rescapés rescapés, selon le vice-gouverneur des provinces qui est descendu sur les lieux du drame. Entre-temps, les recherches se poursuivent pour retrouver les autres corps, ajoute Rémi Saki qui déclare qu'aucun manifeste n'a été trouvé. Des cas de naufrage sont devenus récurrents dans l'espace Grand Bandundu. Rappelons qu'au mois d'août dernier, la province du Maïndombe a été à nouveau touchée par un drame pareil où une baleinière avait chaviré sur la rivière Lukeni près du village Manjoko et plus de 100 personnes avaient perdu leur vie lors de cet accident. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
On poursuit ce journal avec ces chiffres. Un cas confirmé et 12 cas suspects de la maladie de monkeypox enregistrés dans la zone de santé de Moba, province du Tanganyika, se confient ce mardi à Radio Okapi. Le médecin chef de zone de santé annonce que la sensibilisation de la population pour se protéger contre cette maladie se poursuit. Le point avec Paulin Munanga.
Le médecin chef des zones de santé de Moba précise que les cas confirmés et suspects d'impox sont enregistrés sur une période de 2 mois et les malades ont moins de 30 ans. Le docteur Barwin Momangoy annonce que les cas sont isolés à l'hôpital général de référence de Kirungu et rappelle que la prise en charge est gratuite. Il précise que ces cas sont notifiés dans les aires de santé de Moba Port, Regeza, Kasenga, Kasama et Kirungu. Le médecin chef des zones de santé de Moba indique que des échantillons envoyés au grand labo de Lubumbashi ont confirmé les cas positifs d'impox. Il rassure que le personnel médical continue avec la surveillance de cette maladie dans la zone de santé ainsi que la sensibilisation de la population pour le respect des mesures barrières afin de prévenir cette maladie. Rappelons que 2 cas suspects de la variole des singes ont déjà été notifiés dans les territoires de Kabalo, toujours dans la province du Tanganyika. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Nord Kivu, l'ONG AICED plaide en faveur de mesures d'accompagnement de l'application de l'arrêté et le communiqué officiel du gouverneur interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation et l'usage des emballages plastiques. Ceci afin de protéger la santé des communautés et éviter la pollution des écosystèmes. Le directeur exécutif de cette ONG environnementale se dit inquiet de constater que cette disposition n'est toujours pas respectée 2 mois après la fin du délai moratoire accordé aux commerçants. Faustin Niebonnet le dit au micro de Denise Luquesso.
C'est bien ces dispositions juridiques, mais s'il n'y a pas les mesures d'accompagnement, ça risque de rester lettre morte. C'est pourquoi on a rappelé au gouverneur de les appliquer et surtout que le gouvernement a déjà pris des mesures d'accompagnement pour les appliquer. Parce que dans un atelier qu'on avait tenu, le délégué du gouverneur avait montré que le gouvernement provincial a déjà pris des engagements avec les unités de production des emballages biodégradables, des emballages en papier à tissu et que la province du Nord-Kivu est capable de desservir non seulement la province du Nord-Kivu, mais aussi la province de Maniema et même de l'Ituri à quantité des emballages biodégradables. Donc, la loi est là, c'est déjà une avancée. Alors, mais curieusement, presque 2 mois après la fin du délai moratoire, on voit que les emballages non biodégradables circulent, les gens se promènent avec ça. C'est pourquoi on a fait ce plaidoyer pour appeler au gouverneur de veiller à l'application de cet arrêté parce que les vis à dépendre.
Je vous signale que dans un communiqué officiel datant du 19 juin 2024, le général Peter Chirimwami Nguba avait précisé que les emballages non biodégradables portent atteinte à la santé humaine et à l'environnement en polluant les écosystèmes. Il avait ainsi accordé un moratoire d'un mois aux opérateurs économiques afin d'écouler leurs stocks avant d'interdire toute importation des dits produits. Ouverture ce mardi à Kinshasa du 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Le congrès se déroule sous le thème « Renaissance ensemble face au nom, l'avenir de notre profession ». Les participants tenteront de mettre en application les 80 recommandations issues des États généraux des médias tenu en mars 2022. Ce rendez-vous intervient après une crise généralisée entretenue au sein de l'UNPC depuis le dernier congrès tenu à Mwanda en 2020. Retrouvons notre envoyé spécial à ces assises, Richard Junior Kamunga.
C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui a ouvert les travaux de ce congrès devant 200 congressistes venus des 25 provinces et ceux de la ville, province de Kinshasa. Prenant la parole à cet effet, le président intérimaire de l'INPC, Modeste Chabani, a indiqué que ce congrès mettra en route la refondation de l'Union. Les amendements du statut et règlement d'ordre intérieur sont prévus. pour le ministre Patrick Muyaya, les journalistes étant les poumons de la démocratie et jouant aussi le rôle d'éclaireur, doivent avoir les tests rigoureux pour les changements de l'écosystème médiatique. Les travaux en plénière ont débuté l'après-midi de ce mardi, alors que le vote du nouveau bureau du comité d'unité interviendra avant le jour de la clôture. Depuis le centre catholique Nganda, Richard Junior Kamunga, Radio Okapi.
Le processus de la mise en place du cadre permanent de dialogue public-privé est déjà en marche. Il a connu sa première réunion ce mardi en la salle de Silikin Village à Kinshasa. Cette structure vise à mettre en place une collaboration entre les centres de petites et moyennes entreprises et l'État congolais en vue d'améliorer le climat des affaires et de booster les recettes publiques. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
À l'initiative du gouvernement à travers les projets Transform, ce cadre permanent de dialogue public-privé est conçu pour renforcer la coopération entre les centres des PME et les structures étatiques. Cette initiative s'inscrit dans la vision de soutenir la croissance économique durable du pays en favorisant les échanges ouverts, inclusif et constructif. Ces cadres permanents permettra également aux PME et aux centres de PME qui les réunissent au sein des espaces partagés de travail d'accéder à une plateforme structurée où elles pourront dialoguer directement avec les acteurs publics, notamment les ministères concernés, les agences étatiques et autres institutions gouvernementales. Expert juriste au sein du projet Transform, Maître Janvier Kiambumbaya est persuadé que le dialogue permanent entre les PME et l'État congolais va faciliter l'assainissement du climat des affaires à travers les pays.
Ce cadre est lancé dans le cadre de la mise en place des centres de PME. C'est pour la croissance des PME, pour le développement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo.
De son côté, la chargée des opérations au sein de l'unité de coordination du projet Transform a souligné l'importance de ces dialogues qui, selon elle, va contribuer non seulement à la réduction des obstacles bureaucratiques, mais également à la mise en place d'un climat des affaires plus propice pour les entrepreneurs congolais.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, les pressions se multiplient à l'encontre des proches de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères qui a quitté le Burkina Faso depuis 2020, a déclaré lundi, je cite, « Nous vivons des moments terribles avec mon épouse de savoir nos enfants mis en danger de mort simplement parce que j'ai voulu m'exprimer sur la situation de la sécurité dans mon pays. » Fin de citation. En fin de semaine dernière, son aide de camp et son fils aîné, Aziz, ont été arrêtés. Ce lundi soir, c'est l'une de ses filles, Yasmine Bassolé, qui a été interpellée, puis emmenée dans un milieu inconnu, indiquent des membres de sa famille.
L'invité.
Notre invité est Alain Ngalamouloumé Bakajika, procureur chef de parquet près le tribunal de paix de Kalemie. Il évoque l'importance de l'installation à Kabimba, dans le territoire de Kalemie, d'une itinérance du parquet près le tribunal de paix de Kalemie. Il s'entretient ici avec Paulin Munanga. Suivez.
Monsieur le procureur de la République, Alain Ngalamouloumé Bakajika, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez d'ouvrir une itinérance du parquet près le tribunal de paix de Kalemie, à Kabimba, plus précisément dans les territoires de Kalemie. Pourquoi avez-vous pris une telle décision?
Ma compétence s'étend sur tous les territoires de Kalemie. Et comme vous le savez, en dehors de Kalemie ville, il y a aussi Kalemie territoire. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de ramener ou d'approcher la justice auprès de justiciables. Nous avons constaté que la population de Kabimba a la difficulté pour nous atteindre ici à Kalemie ville. Comme vous le savez, Kabimba est situé à 60 km de la ville de Kalemie. Alors, nous avons constaté que la population qui est à Kabimba a des difficultés pour atteindre Kalemie. Il y a des difficultés liées à la route, il y a aussi des difficultés liées au transport, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour se payer des transports et venir ici à 60 km pour saisir la justice. Vu toute cette difficulté, je me suis dit non, je dois me rapprocher auprès des justiciables, parce que les habitants de Kabimba, étant des Congolais, ils ont aussi droit à la justice. C'est pourquoi je suis allé à Kabimba avec l'autorisation de ma hiérarchie. Nous sommes allés là-bas en itinérance. Avec l'aide de l'administrateur du territoire de Kabimba, nous avons eu à avoir un endroit pour travailler. On nous a donné l'ancienne maison du territoire à Kabimba. C'est là où nous avons placé notre itinérance du parquet près les tripés de Kalemie.
Et sur place, il y a des magistrats qui vont prester là-bas en permanence.
Lorsque nous sommes allés ouvrir cette itinérance, nous avons laissé des magistrats. Les magistrats sont là sur place. La population de Kabimba vit dorénavant avec deux magistrats là-bas. Donc il y a deux magistrats qui sont sur place, qui vont commencer à revenir. Les autres vont partir. C'est pourquoi nous appelons ça itinérance. Ils sont en contact demain avec le magistrat. Ils traitent les affaires de la population de l'autre côté.
Dites-nous comment cela s'est passé auparavant, avant que vous n'installiez l'itinérance à Kabimba. Et vous étiez en train de recevoir combien de dossiers chaque mois en provenance de ces territoires?
Depuis que je suis ici, les dossiers venant de Kabimba, je peux faire un mois sans avoir un seul dossier venant de Kabimba. Alors il y a des infractions chaque jour ici. Il y a des gens qui veulent porter plainte ou qui veulent avoir accès à la justice. Je peux faire un mois sans avoir un dossier venant de Kabimba. Alors j'ai compris que cela est dû à toutes ces difficultés que je venais d'évoquer tantôt. La distance, le moyen de transport, c'est pourquoi je me suis dit, je dois descendre sur place pour organiser cette itinérance. Je suis allé avec mes magistrats. Qu'on puisse épargner cette population de Kabimba qui a aussi droit à la justice de commencer à faire beaucoup de distance pour apporter leurs affaires devant le tribunal. C'est pourquoi nous sommes allés là-bas. Nous allons recevoir des plaintes, nous allons recevoir des dénonciations. En tant que ministère public, nous allons nous saisir d'office parce que nous n'allons pas attendre pour qu'on puisse nous amener, que les gens viennent auprès de nous. En tant que ministère public, partout où il y a des faits infractionnels, nous devons nous-mêmes nous saisir, même par de simples informations. Lorsqu'on nous a donné cette mission, lorsqu'on nous a élevé au poste du procureur de la République et on nous a donné cette entité pour diriger, moi et mes magistrats, que ce soit ici, à Kalemie-Ville ou à Kalemie-Territoire, là à Kabimba, nous avons pris la décision d'être l'espérance pour les faibles et un traumatisme permanent pour tous ceux qui vont violer la loi, que ce soit à Kabimba, que ce soit ici à Kalemie.
Après l'implantation de cette itinérance du parquet près le tribunal de paix de Kalemie, quel est le constat que vous avez pu faire? Est-ce qu'il y a eu déjà des gens qui sont venus avec des dossiers, des justiciables?
Nous avons ouvert cette itinérance le 9 de ce mois de septembre. Mais je vous dis, des jours après l'ouverture de cette itinérance, croyez-moi, nous avons eu des dossiers. Nous avons eu les gens qui sont venus porter plainte. Et les autres ont eu même des solutions sur place. Ils ont témoigné. Donc c'est pour vous dire que nous étions les bienvenus à Kabimba. Et la population a salué cette initiative que nous avons prise d'amener la justice auprès de justiciables. Le mot que je lance à mes justiciables, que ce soit de Kalemie-Ville ou Kalemie-Territoire Kabimba, je leur demande de faire confiance en la justice. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent que la justice n'existe pas au Congo. C'est faux, monsieur le journaliste.
Monsieur le procureur de la République Alain Ngalamulume Bakajika, je vous remercie.
Voilà, c'est par ces précisions du procureur Alain Ngalamulume que nous bouclons ce journal. Merci à Martin Sebouji-Angoué, merci à Pélé Kipela Mondo et à Dieudonné Nyangasa.